Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jigme, c'est la deuxième émission radio qu'on va faire ensemble. Dans la première partie, on a plus un peu parlé de ton itinéraire de vie, ton parcours, ce qui t'a amené à choisir la voie du bouddhisme tibétain, à devenir moine. On est dans le temple de l'Erabling, près de l'Odève, dans le sud-est de la France. On va poser un peu la dimension visuelle de la salle dans laquelle on se trouve et on va aborder les thèmes dont on a vaguement évoqué l'existence la dernière fois. Tu me parlais des quatre nobles vérités, tu me parlais des poisons de l'esprit, enfin des termes sont apparus. Donc voilà, l'idée c'est de rentrer un peu plus dans le bouddhisme aujourd'hui ensemble. Pour cette émission, regarde ailleurs. Donc regarde ailleurs, c'est vraiment ça, c'est ouvre, élargis ta vision sur le monde et sur toi-même à travers des partages d'expériences, à travers différentes traditions, différentes croyances, dans l'idée où pour grandir, il faut s'ouvrir. Et c'est peut-être dans la diversité, dans la multiplicité qu'on va réussir à se découvrir soi. Donc quand je t'ai posé la question la dernière fois, on va peut-être commencer comme ça. Je te demandais le bouddhisme, plutôt religion, plutôt spiritualité, plutôt philosophie. Et tu m'as répondu, le bouddhisme, le Dalai Lama aime à dire que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est une science de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la science de l'esprit? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces propos et définir pourquoi est-ce que le bouddhisme peut être une science de l'esprit et qu'est-ce que c'est que l'esprit?
Pour donner un cadre, disons, par rapport aux enseignements du Bouddha, on peut voyez, le Bouddha en fait est né il y a 2600 ans et il a montré un chemin extrêmement élaboré, extrêmement profond aussi. Les seules paroles du Bouddha, qu'on appelle en tibétain le Kangyur, c'est 108 volumes. Donc ça représente à peu près 1 mètre cube d'écriture. Donc c'est extrêmement vaste et extrêmement profond, et pour certaines personnes ça peut prendre peut-être quelques années pour pouvoir le lire complètement, simplement le lire. Alors le comprendre c'est encore autre chose, et le mettre en pratique c'est encore différent. Donc c'est ce que nous propose le Bouddha, mais aussi on peut simplifier aussi ou essentialiser cet enseignement. Et le Bouddha, quand il a donné un enseignement en essentialisant son enseignement, il a dit c'est simplement abandonner toute action, parole, pensée négative. Donc, d'une certaine manière, autant que faire se peut, essayer de ne pas faire le mal. De ne pas faire le mal pour les autres, bien sûr, mais pour nous-mêmes aussi. Il faut aussi il faut aussi prendre soin de soi. Le deuxième aspect, c'est ce qu'il appelle cultiver un trésor de vertu. Et là, c'est l'opposé. Cultiver un trésor de vertu, c'est-à-dire, si possible, essayer de faire le bien pour les autres et pour soi-même aussi. Et finalement, dompter ou transformer cet esprit qui est le nôtre, tel est l'enseignement du Bouddha. Donc, c'est vraiment l'essence de ces enseignements. Abandonner les actions négatives, cultiver les actions positives et transformer son esprit, travailler avec son esprit. Pourquoi l'esprit est extrêmement important, fondamental dans l'approche bouddhiste? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça définit nos actions, ça définit nos paroles aussi. C'est un peu, parfois on dit, le principe universel qui ordonne tout, le créateur du bonheur et aussi le créateur de la souffrance. Le créateur de notre propre bonheur et le créateur de notre propre souffrance. Et ça, c'est intéressant de voir ça sous cet aspect, parce que dans notre quotidien, on a parfois tendance à blâmer les circonstances. On va blâmer les circonstances dans lesquelles la famille dans laquelle on est né, par exemple, ou les circonstances de notre vie. On peut blâmer la politique, on peut blâmer certaines personnes, etc., ou certaines circonstances. Mais, d'une certaine manière, ultimement, notre propre bonheur dépend véritablement de notre esprit. Et ça, c'est intéressant de voir ça d'une manière... en fait, on voit ça d'une manière extrêmement pragmatique. Si vous vivez des circonstances difficiles, On peut regarder un petit peu autour de nous et on voit que pour certaines personnes, quelques petites circonstances difficiles peuvent être comme la fin du monde, comme quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et pour d'autres personnes qui vont vivre des choses extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, qui ont peut-être perdu un être cher. Ou si vous regardez, par exemple, pour de nombreux Tibétains qui ont dû fuir leur pays, ils ont perdu leur famille, leurs amis, leur pays, et ils se sont retrouvés en exil en Inde, dans des situations extrêmement difficiles. Et malgré tout, malgré ces difficultés, ils ont surmonté tout ça et ils ont une forme de paix, de bien-être pour une bonne part d'entre eux. Bien sûr, tout le monde est différent, mais on voit que finalement, les circonstances sont une chose, mais notre façon de gérer les choses à partir de notre esprit, à partir comment gérer ces circonstances difficiles peut nous aider à ça fait vraiment une grande différence d'une certaine manière.
Une forme de résilience, d'acceptation de ce qui est.
Alors il y a de la résilience, il y a de l'acceptation, oui, mais c'est pas non plus passif. C'est-à-dire qu'on ne va pas à prendre un comportement de victime aussi. C'est-à-dire, ok, on a des circonstances difficiles, on accepte les circonstances, mais aussi à partir de là, ça peut être extrêmement bénéfique, par exemple. On peut construire par rapport à ça. Celui qui n'a pas vraiment connu la souffrance ou les difficultés pourra difficilement se relier à la souffrance des autres, donc développer de l'amour, de la compassion pour autrui, par exemple.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, la souffrance, c'est un mot qui revient assez régulièrement dans le bouddhisme. J'aimerais que tu m'expliques aussi pourquoi, mais on va peut-être commencer peut-être simplement par revenir sur le Bouddha, Gautama, peut-être revenir un peu sur l'histoire du bouddhisme. Est-ce que tu peux, avant de parler plus en profondeur du bouddhisme, revenir sur cette histoire donc de Siddhartha, un prince, hein, je crois, revenir sur l'histoire.
Oui, alors effectivement, on se trouve, il y a 2600 ans, dans le nord de l'Inde, ou la région aussi qui est dans le sud du Népal, dans un petit royaume qui s'appelle le royaume de Shakya. L'Inde, à l'époque, était divisée de nombreux petits royaumes qui étaient plus ou moins indépendants. Et Siddhartha, puisque c'est de lui qu'on parle, était le fils du roi de ce royaume, de ce clan des Shakya. Donc il était destiné à prendre les suites à prendre les rênes de son royaume et succéder à son père. Malgré cela, Siddhartha, qui était quand même un jeune homme très sensible, très ouvert aux difficultés qu'il pouvait rencontrer autour de lui, a souhaité assez rapidement suivre une voie spirituelle et a souhaité mettre un terme à la souffrance et aux frustrations. Et c'est là qu'a commencé son chemin. Il a abandonné dont une forme de renonciation qu'on retrouve dans la tradition monastique bouddhiste. Il a renoncé à tous ses privilèges qu'on lui a donné dans une famille royale, et aussi ce qui pouvait l'empêcher d'une certaine manière de trouver une voie qui puisse l'amener à la cessation de la souffrance et de la frustration. Et d'abord, il a cherché autour de lui dans la tradition hindoue. Il a reçu de nombreux enseignements auprès de différents maîtres dans la tradition hindoue. Et puis, petit à petit, il a pas été complètement satisfait de ses enseignements. Et finalement, il a souhaité trouver une réponse à ses questionnements qu'il pouvait avoir par lui-même. Donc, au travers de la méditation, de l'observation de son esprit, au travers de la logique d'une certaine manière, des enseignements qu'il avait reçus, Il a découvert justement, il a atteint ce qu'on appelle l'éveil, donc la cessation de la souffrance et des frustrations, et l'omniscience, la réalisation de la sagesse qui connaît toute chose. Et à partir de là, cette épiphanie, on va l'appeler comme ça peut-être, ou cette réalisation spirituelle, il a eu à un âge assez jeune, à l'âge de 35 ans. À peu près. Et à partir de là, il n'a cessé d'enseigner. Donc, il a rassemblé ce qu'on appelle une sangha ou, un groupe d'étudiants à qui il a enseigné pendant plus de 40 ans. Il est décédé à l'âge de 80 ans à peu près. Et tout au long de sa vie, il n'a cessé d'enseigner le chemin qu'il a découvert. Et au départ, c'était assez difficile parce qu'il s'est dit, mais ce que j'ai découvert, peut-être personne ne va pouvoir le réaliser. Donc, il a dû aussi s'adapter à son public, d'une certaine manière, à ses étudiants, pour qu'ils puissent progresser sur le chemin qu'il leur propose, là où ils se trouvent. C'est pour ça que dans le bouddhisme, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs chemins. Pourquoi ? Parce que simplement, le Bouddha s'est adapté à son audience et leur a permis de pouvoir progresser simplement de là où ils étaient. Ça, c'est extrêmement important aussi.
Je veux bien qu'on définisse différents termes. On va commencer par l'éveil. Qu'est-ce qu'on entend par l'éveil ?
L'éveil, en fait, c'est la réalisation de notre potentiel le plus élevé. Ça, c'est mes propres mots. Donc, il ne faut pas prendre ça.
Tu en es où dans l'échelle de l'éveil ?
Là, je ne suis même pas au pied de l'échelle. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de travail, j'imagine. Mais il faut être patient, c'est pas si grave. L'important, c'est de cheminer. Parfois, on se dit c'est plus important de cheminer que d'arriver au but lui-même. Donc l'important, c'est d'être sur le chemin. Quand on avance sur un chemin, c'est bien d'être accompagné, effectivement. Parce qu'on fait des erreurs, inévitablement. On a une marche à suivre, on a un plan que nous a montré le Bouddha. Mais ultimement aussi, il nous dit dans ses enseignements que c'est à nous de suivre ce chemin. C'est à nous de progresser et c'est uniquement nous qui allons arriver jusqu'au but et à atteindre l'éveil. Donc l'éveil, qu'est-ce que c'est ? C'est la réalisation de notre potentiel le plus élevé. La réalisation de notre véritable nature, de notre bonté fondamentale d'une certaine manière. Donc il y a un aspect de sagesse, de réalisation, de voir les choses telles qu'elles sont véritablement. Et il y a un aspect de compassion et de bienveillance, d'amour. Pourquoi ? Parce que quand on a atteint l'éveil, on est allé au-delà de la souffrance et des frustrations, on s'est libéré de cela. Mais on voit aussi qu'il y a de nombreux êtres, de nombreuses personnes autour de nous, non seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, etc., qui sont toujours ancrés dans cette souffrance, dans cette frustration, dans ces difficultés. Et naturellement, notre bon cœur va s'élever. Pourquoi ? Parce qu'on a réalisé ce potentiel, on a cette sagesse et on va pouvoir développer des moyens qui vont pouvoir aider toutes ces personnes, tous ces êtres à pouvoir progresser, à entrer sur un chemin qui leur convient aussi et finalement peut-être aussi réaliser ce plein potentiel. Cette nature ultime, cette bonté fondamentale qui est présente en chacun d'entre nous d'une certaine manière.
Alors quel est le chemin pour atteindre l'éveil ? Quelle est la direction ? Comment on fait ?
Je pense que bien sûr le Bouddha nous propose un chemin, mais je pense que ça va au-delà, à mon avis, très personnellement, je pense que c'est bien plus vaste que le bouddhisme. D'ailleurs, je me demande si aujourd'hui on pouvait rencontrer et parler avec le Bouddha, je me demande s'il se définirait lui-même comme étant bouddhiste. Je ne suis pas très sûr, j'en sais rien, c'est juste ma propre projection. Donc je ne pense pas qu'atteindre l'éveil ou une réalisation spirituelle importante est uniquement l'apanage du bouddhisme, loin de là, parce qu'on est tous très différents et on a tous besoin d'un chemin qui nous convient. Et je pense que on parle de religion, mais on parle de spiritualité. Je pense que ça peut même aller au-delà de tout ça.
Sans être moine, on a tous une chance alors.
Ah, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Dès le départ, en fait, le Bouddha a donné l'ordination à des moines et à des nonnes. Et ce qui allait complètement à l'encontre de beaucoup de concepts de à l'époque, dans l'Inde de l'époque, puisqu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas recevoir d'enseignement spirituel ou ne pouvaient pas forcément pratiquer une vie spirituelle, pas forcément, en fait, c'était très difficile. Et puis il y avait un système de caste qui était extrêmement très très établi, encore beaucoup plus qu'actuellement. Il en reste quelques reliquats encore en ce moment, mais on ne pouvait pas se relancer dans une quête spirituelle, par exemple, si on était un intouchable ou si on était d'une caste guerrière, comme le Bouddha. Le Bouddha faisait partie d'une caste guerrière. Il était fils d'un roi. Donc lui, il a cassé quand même tous ces concepts. Et c'était un peu révolutionnaire à l'époque.
Une phrase que j'avais retenue d'une lecture, c'est Bouddha disait « N'écoute pas ce que je dis, mais vis l'expérience par toi-même ».
Alors, je n'ai pas entendu cela, mais je trouve que ça peut être très proche du message de Bouddha, effectivement. Lui nous montre le chemin et parfois, en fait, il utilise certaines métaphores. Il se pose en tant que médecin. Il dit voilà, je suis un médecin et je vais vous prescrire un médicament. D'abord, je vais vous établir un diagnostic. Vous êtes souffrant, vous êtes malade. Mais par contre, et ça, c'est ce qu'on appelle parfois, ça donne un cadre à son premier enseignement, l'enseignement sur les quatre nobles vérités ou les quatre vérités des nobles, parfois qu'on l'appelle aussi. Il dit voilà, il établit un diagnostic, on est souffrant. Il y a la souffrance de la naissance, il y a la souffrance de la vieillesse, il y a la souffrance de la maladie, il y a la souffrance de la mort qu'on va tous vivre à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les quatre grands fleuves de souffrance, par exemple. On peut définir la souffrance de cette manière-là, on peut la définir d'autres manières aussi. C'est une façon d'en parler. Donc on va voir ce médecin, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans notre façon d'être et de vivre, on va le voir, donc le Bouddha va nous établir un diagnostic, mais ensuite il va nous dire « Ok, vous êtes malade, mais il y a des causes à cette maladie ». Et ça c'est la deuxième noble vérité, c'est la vérité des causes de la souffrance. Pourquoi vous êtes malade ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas réalisé les choses telles qu'elles sont véritablement, vous n'avez pas atteint l'éveil, et vous êtes dans ce qu'on appelle le samsara, une façon biaisée de voir les choses. Ce n'est pas la vie, mais c'est une façon biaisée de voir les choses.
C'est reconnaître une souffrance. Deux, c'est déterminer les causes de cette souffrance. Donc ça, c'est les deuxièmes nobles vérités.
Et ensuite, il va nous dire, mais il y a la troisième noble vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. Il y a un remède. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'autrement, si on s'arrête simplement à la souffrance, c'est extrêmement déprimant. Quand on sait qu'il y a des causes, déjà, on sait qu'on peut éliminer les causes. C'est déjà une bonne nouvelle. Et quand on sait qu'il y a une cessation, qu'on peut véritablement mettre fin à cette souffrance, c'est une nouvelle encore meilleure. Et puis la quatrième noble vérité, c'est la vérité du chemin. Et c'est le chemin que nous propose le Bouddha pour arriver à la cessation de cette souffrance. Et là, si on continue avec cette analogie du médecin et du diagnostic, de la médecine qui va nous donner, la médecine, en fait, c'est le, le chemin qu'il nous propose. Mais en fait, ensuite, il va nous dire, OK, je vous donne la prescription, vous connaissez le médicament, mais ça, c'est à vous de le prendre, effectivement. C'est à vous de prendre ce médicament et de prendre en fait votre guérison en main. Et il nous dit, je vous montre le chemin, mais c'est à vous de le suivre.
Mais donc, pour bien comprendre, quand on parle de souffrance, c'est pas simplement une souffrance physique, ça peut être ça, mais ça peut être une souffrance liée à un conflit, une souffrance d'ordre émotionnel.
La souffrance, on appelle ça dukkha. Dukkha, c'est un terme sanskrit qui a été, depuis pas mal de temps, traduit en français par souffrance, mais pas mal de gens aussi, de traducteurs, utilisent le mot frustration. Et parfois, on dit qu'il y a trois formes de souffrance. La première forme de souffrance, on l'appelle la souffrance de la souffrance. C'est nous ce qu'on décrit comme étant la souffrance physique ou parfois même la souffrance mentale. Et ça, le Bouddha, il dit, c'est semblable à quand vous avez une blessure, par exemple. Imaginez que vous êtes blessé, vous êtes coupé avec un couteau, vous êtes coupé un doigt, par exemple. Ça fait mal, hein, dans votre corps, ça fait mal. Et en plus de ça, vous ajoutez du sel sur cette plaie. Et en fait, non seulement vous avez mal, vous avez de la souffrance, mais en plus, vous avez de l'aversion à cette souffrance. C'est un des poisons mentaux. Vous avez de l'aversion à cette souffrance. Donc ça décuple quasiment votre souffrance physique, par exemple. Si vous avez mal à la tête et vous dites « j'ai mal à la tête », ça va être encore plus douloureux, non ? Même si c'est un léger mal de tête. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors, tout le monde peut se relier à ça. Le deuxième aspect, il appelle ça la souffrance du changement. Et d'une certaine manière, nous, c'est ce qu'on appelle le bien-être, le bonheur. Pourquoi ? Pourquoi c'est une souffrance ? Parce qu'on y met de l'attachement. On s'attache à notre bien-être. On s'attache à ces petits moments de bonheur. On s'attache aux êtres qu'on aime. Et si on a cet attachement, eh bien, assez rapidement, comme toutes les choses sont impermanentes, quand on va perdre cette situation de vie, quand on va perdre ces gens qu'on aime, eh bien, on va aussi souffrir. C'est pour ça que le Bouddha, il appelle ça la souffrance du changement. Hein? Nous, on appelle ça le bonheur, le bien-être, mais lui, il voit qu'il y a vraiment une cause de souffrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher complètement de toutes ces choses agréables. Il faut en profiter. Quand on a des circonstances agréables, quand on est en présence de gens qu'on aime, eh bien, il faut vraiment en profiter et apprécier tout ça. Il ne faut pas non plus être dans le déni de tout ça, ce serait idiot d'une certaine manière. Mais aussi, vraiment, on se rendre compte que ce ne sont pas des choses qui sont acquises. Donc, si on a cette idée un petit peu à l'arrière de notre tête, de notre esprit, alors on va apprécier d'autant plus ces situations agréables et ne pas voir les choses comme étant acquises. Hein? Si aujourd'hui on se trouve en France avec un système social qui est vraiment fantastique quand même, il faut vraiment en être conscient, il y a peu de pays où on a un système social aussi merveilleux, eh bien il faut vraiment l'apprécier parce que ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Et le simple fait d'aller à l'hôpital et de se dire, voilà, ben, j'ai pas besoin de payer pour tout ça, et d'avoir des soins incroyables qu'on nous donne finalement de manière quasiment gratuite, hein, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Donc, on peut vraiment apprécier, et ça peut être une source de bienfait, de bonheur d'une certaine manière. Alors que si on prend les choses comme étant acquises, simplement acquises, alors la moindre chose qu'on perd, ça va être extrêmement douloureux. Et la troisième forme de souffrance...
Je vais les répéter, donc la souffrance physique, la souffrance liée au changement, oui, hein, oui. Et donc troisième forme de souffrance.
Oui. Alors la souffrance, ce qui est intéressant aussi, la souffrance du changement, le Bouddha, il donne souvent des exemples. Il dit que c'est semblable à un poison que vous avez ingéré. Quand vous ingérez un poison, quand vous venez d'ingérer un poison, ça vous fait pas mal, non ? Vous vous sentez tout à fait bien. Mais la cause du mal est déjà présente dans votre corps. Et... au bout d'un certain temps, vous allez souffrir, quand ça va se manifester complètement. Et le troisième aspect, c'est très difficile c'est assez difficile la troisième forme de souffrance, assez difficile à se relier, pour nous en tant qu'êtres humains normaux. Et c'est ce que le Bouddha appelle la souffrance qui est inhérente à toute chose, qui est présente en toute chose. Parce qu'il dit que toute chose peut être source de souffrance. Et là, il dit, pour nous, en tant qu'être sensible, normal, c'est difficile à se rendre compte. Bon, une fois, j'ai entendu un enseignement, parce que j'arrive difficilement à me relier à... C'est encore quelque chose qui est assez mystérieux pour moi. Mais un jour, quelqu'un avait posé avait demandé à un lama, mais qu'est-ce que c'est cette souffrance qui est inhérente à toute chose ? Et il avait donné l'exemple d'un verre d'eau. Et il a dit, un verre d'eau, quand on vous présente un verre d'eau, un jour où il fait très chaud, par exemple, 30 degrés, vous êtes au bord de... Allez, vous êtes dans un désert et quelqu'un vous amène un verre d'eau, c'est extrêmement agréable. Vous allez vous désaltérer, vous allez remercier cette personne, en plus c'est un verre d'eau fraîche. Et puis cette personne va vous amener un deuxième verre d'eau. Ok, vous allez aussi le remercier, bah, c'est agréable. Puis un troisième verre d'eau, ok, bon bah ça va. Le quatrième là, c'est déjà, bon bah vous êtes poli, donc il vous a bien aidé, vous êtes au milieu du désert et vous allez quand même l'accepter. Un cinquième, un sixième, un dixième verre d'eau, il va vous forcer. Avec un pistolet à boire ce verre d'eau, ça devient de la souffrance, ça devient une forme de, ça peut même devenir une forme de torture. On a vu dans le passé, dans le Moyen-Âge, on torturait les gens de cette manière-là. Et ce lama nous dit maintenant de quelle différence entre le premier verre d'eau qui est source de bien-être et le dernier verre d'eau qui est source de souffrance. Le verre d'eau est le même, mais pourtant il y a le potentiel de la souffrance dans ce verre d'eau. Et ça, je trouvais que c'était une image intéressante. Mais je n'ai pas toujours compris encore, vraiment.
Tu parles de point de vue. Cette notion de point de vue est aussi très importante dans notre quotidien. Parce que quel que soit l'événement qu'on vit, on peut reprendre l'analogie du verre. Tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. C'est des outils assez simples à pouvoir appliquer dans son quotidien et essayer de mettre un filtre, un mindset pour essayer de transformer les choses négatives en positives.
Oui, oui, c'est une façon de voir les choses. Ça me fait rigoler parce que il y a une vieille blague, en fait, qui court dans les milieux bouddhistes où on dit, alors, le verre, est-ce qu'il est à moitié vide ou est-ce qu'il est à moitié plein? Et il y a quelqu'un qui va dire, mais non, il est complètement vide. C'est rigolo pour un bouddhiste, c'est pas forcément rigolo pour d'autres personnes, mais ça nous rappelle que les choses, ça rappelle les enseignements sur la vacuité du soi, la vacuité de semaine. Mais c'est une vieille blague qu'on appelle Madhyamika. Madhyamika, une philosophie dans la tradition bouddhiste qui est la philosophie de la voie du milieu. Là, on rentre vraiment dans la philosophie et on va pas se lancer là-dedans.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On va peut-être terminer par je te demander de me raconter une histoire que tu aimes bien, une histoire du Bouddha ou une histoire dans le bouddhisme, parce qu'il y a beaucoup d'histoires imagées, une histoire que tu auras envie de partager, qui peut peut-être amener une réflexion, amener des clés. Raconte-nous une histoire, Jingmei, s'il te plaît.
Oui. Alors c'est une histoire intéressante. En fait, c'est un jour le Bouddha enseignait et il y a une personne qui est venue à lui. C'était une femme qui venait de perdre son enfant et on lui avait dit s'il y a quelqu'un qui peut ressusciter ton enfant, qui peut lui donner de la vie, lui redonner la vie, ben ça va être le Bouddha. Donc va le voir. Donc elle était extrêmement attachée à son enfant qui était mort en jeune âge et elle était complètement désespérée d'être dans une souffrance intense. Et donc elle s'est dit ok, j'ai rien à perdre, je vais aller voir le Bouddha. Elle est allée le voir et puis elle lui a expliqué sa situation. Et le Bouddha lui a dit, oui, je peux rendre la vie à cet enfant qui est décédé, mais pour ce faire, il faut que tu me ramènes quelque chose. Quelque chose de très simple, quelque chose qui n'a pas de valeur. Ramène-moi une poignée de graines de moutarde qui vient d'une maison qui n'a jamais connu la mort. Quand tu m'auras ramené cette moutarde, alors je pourrais rendre la vie à cet enfant. Alors cette femme était emplie de joie, elle a dit une poignée de moutarde, dans n'importe quel foyer, on peut trouver ça. Donc elle s'est mise en route, elle est allée avec son enfant sous le bras, et elle a frappé à la première porte, elle lui a demandé est-ce que cette maison a déjà connu la mort ? La personne a pris un air triste, elle a dit oui, effectivement, j'ai perdu ma mère il y a quelques jours seulement, et on est vraiment encore en deuil. Donc ça l'a touchée, elle est allée voir la maison suivante. Elle dit oui, j'ai perdu ma tante il y a 2 ou 3 ans. Et c'était des moments très difficiles, et etc., etc. Elle a fait toutes les maisons du village, mais elle a réalisé qu'il n'y avait personne, aucune maison, aucun foyer qui n'avait jamais connu la mort. Et à ce moment-là, elle a vraiment pris conscience de cette souffrance, de l'impermanence, et que la mort était présente, était malheureusement l'expérience de toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Et le fait d'avoir pu échanger avec toute cette personne, eh bien, ça lui a permis d'accepter le décès de son enfant. Et elle est retournée vers le Bouddha. Et le Bouddha lui a dit, alors, tu as trouvé? Elle lui a dit, non, j'ai pas trouvé, mais j'ai réalisé ce que c'est l'impermanence. Et maintenant, ayant réalisé cela, je souhaite devenir ton étudiante. Et on dit que cette femme est devenue une personne extrêmement réalisée.
Oui, c'est ça, on est prisonnier de ce qu'on refuse d'accepter et on est libre par ce qu'on accepte. Merci Jingbei, merci à toi.
Un petit coup de pub, allez. Le site internet, c'est l'erabling, lerabling.org.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !